Vous êtes toujours sur Choc FM avec Itry Herouet. Je suis au téléphone aujourd'hui avec notre chroniqueur préféré, Serge Paul, qui va vous parler de sa chronique BD. Serge, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi, Itry ?
Ça va.
Écoute-moi, ça va très bien parce que tu m'as appelé le chroniqueur préféré, donc ça, c'est vraiment génial.
Ah oui, c'est parce qu'on, c'est parce qu'on adore ta chronique BD à Choc FM.
C'est gentil, merci beaucoup.
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui sur la BD ?
Alors,
est-ce que tu as un sujet en particulier ?
Oui, effectivement. Parler d'une chose qui était un petit peu qu'on met pas forcément en commun, c'est-à-dire que je vais parler du bande dessinée et de musée.
Ah,
on
c'est
a
super.
On a tendance à voir plutôt des œuvres de peinture, des œuvres de photographie, et puis là il y a deux superbes belles expositions, on va dire temporaires, qui ont lieu sur Paris bien sûr, mais qui vont me permettre de vous parler de la bande dessinée comme un vrai art de musée.
Super.
Est-ce que tu connais un petit peu Hergé, ma chère Itry ?
Oui, Hergé, oui.
Ça dit
Tintin ?
Oui, exactement.
C'est ça ?
Entre autres, effectivement.
Ah oui.
Et en fait, Hergé est tellement reconnu dans l'histoire de l'art qu'il a la chance d'avoir une exposition à Paris au Grand Palais. Donc c'est un des grands musées de Paris. C'est pas un petit musée où on fait une petite exposition comme ça entre quatre murs. C'est vraiment une grande exposition. Et donc ils ont décidé de la dédiée à cet auteur de bande dessinée qui n'a pas que dessiné Tintin.
Ah d'accord, moi je connais, je pense que Tintin. Après tu vas peut-être me citer quelqu'un d'autre mais que je connais. Mais...
Je vais t'en parler un petit peu de ça et puis il va y avoir une autre exposition, on va parler ça dans la deuxième partie, sur un autre aussi grand de la bande dessinée. Mais lui c'est plutôt un personnage, c'est Mickey.
Mickey.
Donc voilà, Mickey revu et corrigé par des Européens. Mais je dis ça plus tard en deuxième partie.
Super.
Alors... ce cher Hergé, qui effectivement s'appelle Hergé parce que ce sont ses initiales, il s'appelle en fait Georges Rémy, donc R et G, donc c'est pour ça qu'il s'est appelé Hergé, H-E-R-G-E, donc un auteur de bande dessinée belge et qui est surtout connu pour les aventures de Tintin, comme tu l'as dit, Itry. Et en fait, le Grand Palais propose à Paris, depuis maintenant le 28 septembre et jusqu'au 15 janvier 2017, une importante rétrospective sur son travail et on peut y voir de nombreux crayonnés qui permettent de découvrir en fait un dessinateur pas mal acharné. En fait, les Galeries Nationales du Grand Palais célèbrent pour la première fois de leur existence le 9e art avec une exposition donc rétrospective sur Hergé. On n'a jamais vu d'exposition sur un auteur de bande dessinée dans ce musée-là, donc c'est la première fois. Et c'est organisé en collaboration avec le musée Hergé, qui se trouve en fait à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles, d'où est originaire Hergé, puisque c'est un Belge. Et en fait, on montre comment cette œuvre dessinée, universellement reconnue, puisque c'est traduit en plus de 56 langues, se construit et s'inscrit dans son temps et dans une histoire de l'art. En fait, cette exposition, voilà comment ça se présente. C'est sous la forme d'un parcours qui propose aux visiteurs d'explorer des thèmes aussi variés que la famille d'Hergé, les artistes qui ont bercé son enfance et qui marquent son développement artistique, la naissance de Tintin, les découvertes technologiques qui ponctuent les aventures du jeune reporter. Par exemple, dans l'album « Ils ont marché sur la Lune », Hergé a inventé tout un voyage spatial vers la Lune avant que ça existe vraiment. Parce que on a été sur la Lune en 69, si je me trompe pas.
Mm-hmm.
Corrige-moi, Itry, mon histoire est pas très très bonne, mais je crois que c'est dans ces
alentours-là. Je crois
que
c'est plutôt, mais...
Mais c'est dans les années 40-50 que Hergé en fait écrit son histoire de voyage sur la Lune et qu'il invente un petit peu toute cette technologie avant que ça existe. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il adapte un petit peu ses aventures à ce qui se passe autour de lui. Mais la partie principale de l'exposition, bien sûr, repose sur la genèse des 24 albums de Tintin.
Mmh.
Et des facettes un peu moins connues de la vie du dessinateur belge sont aussi présentées. En fait, on a deux salles consacrées à la passion du dessinateur pour la peinture et l'art contemporain. C'est un passionné de ces deux arts-là. Et puis après, on va voir certaines publicités aussi auxquelles il a contribué. Donc il n'a pas fait que du Tintin. D'ailleurs... il est vu comme un perfectionniste et vraiment un visionnaire. C'est une personne acharnée de son travail et très très pointueux. En fait, pour te répondre à ta question de tout à l'heure, il a commencé par créer les aventures et les exploits de Quick et Fluke en 1930. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces deux petits personnages, ces deux garçons qui font plein de bêtises dans les rues de Bruxelles.
Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais.
Et puis après, il est parti sur les aventures de Josette et Joko, qui sont un petit garçon, une petite fille et un singe, qui vivent aussi des aventures assez extraordinaires, un peu genre Tintin, mais un peu moins sophistiquées, on va dire. Et il fait en fait évoluer ses personnages en lien avec l'actualité contemporaine encore. Et aujourd'hui, donc, il est connu comme l'un des plus grands artistes contemporains et il a vendu plus de 250 millions d'albums quand même. Traduit, j'ai dit, en 56 langues, mais en fait, je suis trompé, c'est plus d'une centaine de langues, Tintin. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, j'ai dit que ce cher Hergé, donc, qui s'appelle comment alors, Kitri, pour voir si t'as suivi?
Il s'appelle... Georges...
Bravo.
Rémi.
Rémi.
Voilà. Pas Robert.
Georges Rémi, exactement. T'as tout compris, avec un G et un R. Donc, il est né à Bruxelles. Il fait beaucoup d'études au niveau artistique pour pouvoir peaufiner son dessin. C'est un autodidacte aussi. Donc, il a beaucoup appris en travaillant dans différentes publications. Et il commence, en fait, à publier Tintin dans un magazine qui s'appelle Le Petit Vingtième à partir de 1929. Donc, c'est pas mal vieux, Tintin, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu ouvres un Tintin aujourd'hui avec des enfants ou même toi-même, ben, la façon dont ça a été fait, la façon dont ça a été construit l'histoire, tu es quand même attiré par l'histoire. C'est pas quelque chose qui a trop vieilli et que tu veux dire, oh là là, je suis plus intéressé par ça. C'est vraiment construit d'une telle façon que ça reste encore très très contemporain. Et ça, j'adore ça, moi. C'est vraiment très très bien fait. Une de mes couvertures préférées, c'est Tintin et le crabe aux pinces d'or. Donc tu vois, en fait, Tintin sur un chameau avec Capitaine Haddock qui est derrière lui. Et puis Tintin est surpris, il est au premier plan et est très surpris, donc tu vois des grosses gouttes d'eau, quand un personnage de BD est très surpris, c'est des grosses gouttes d'eau un peu autour de lui. Il regarde derrière lui et puis toi ton regard suit le regard de Tintin et qu'est-ce qui se passe? Capitaine Haddock est en train de boire une bouteille de whisky et elle explose dans sa main. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et le regard suit et va jusqu'au fond de l'image et puis ils se sont fait attaquer dans le désert par... des rebelles apparemment et ils viennent de tirer sur la bouteille du Capitaine Haddock. Donc cette construction en fait de l'image, c'est juste une image mais il y a une histoire juste sur une seule petite image. Donc on se rend pas compte de la technique et de la façon dont Hergé prépare ses images. C'est vraiment très 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 sophistiqué et très 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 travaillé.
Moi, je la connaissais pas cette image, hein, donc merci
non.
de me l'avoir décrite.
Bah, avec plaisir, mais je la mettrai en lien sur la page Facebook quand je mettrai le lien de l'émission quand je mets ça sur les médias sociaux. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'exposition en fait tend à parler de Hergé, mais ça oublie un tout petit peu par contre la priorité qu'avait Hergé, c'est les enfants. Parce que c'est le but du jeu au départ, c'était de rendre cette actualité et cet environnement de façon enfantin et de façon accessible aux enfants. Donc c'est un petit peu ce qui va manquer malheureusement. Certaines pièces en fait vont faire le bonheur des enfants, comme la maquette de la fusée réalisée pour On a marché sur la Lune, ou une séquence d'une émission où le réalisateur Yves Robert commente d'une façon très admirative le découpage d'une planche de Tintin. Donc on voit Hergé dessiner une planche de Tintin et le réalisateur de l'émission commente ça. Donc ça c'est vraiment assez impressionnant, c'est à ne pas rater apparemment. J'ai pas vu malheureusement l'exposition, mais si vous passez sur Paris apparemment c'est à ne pas rater. Donc c'est encore une fois jusqu'au 15 janvier 2017 au Grand Palais à Paris. Et donc ne ratez pas ça, c'est la première fois qu'on voit de la bande dessinée et un auteur de bande dessinée dans ce palais à Paris.
Moi, j'ai déjà été à des expos au Grand Palais et c'est vrai que c'est énormissime, hein, le Grand Palais. Donc, ça doit être une énorme expo. Hein.
Exactement. Mais ça fait partie des expositions temporaires du Grand Palais. C'est pas l'exposition permanente comme on a ici à Edgio ou en existant temporaire, mais c'est vraiment assez important. Comme je te disais en tout début de chronique, il va y avoir une autre petite exposition aussi. Et là, c'est sur l'univers de Mickey Mouse.
Super.
Voilà. En fait, c'est pas le vrai univers. C'est ça la petite twist entre guillemets de la chronique. C'est que les éditions Glénat, qui sont des grands éditeurs franco-belges en France, ont demandé à plusieurs grands auteurs de bande dessinée comme Lewis Trondheim, Régis Loisel, Cosset, entre autres, ils ont eu l'opportunité de dessiner leur propre Mickey. C'est-à-dire que on leur a demandé d'utiliser leur propre style et de dessiner des histoires de Mickey à leur propre style. Donc, on retrouve, comme j'ai dit, Cosset, Karamidas, Lévi-Strandheim, Thébault et Loisel. Et leurs planches sont exposées à Paris jusqu'à la mi-janvier sur cette expérience qu'ils ont vécue, en fait, à dessiner leur propre Mickey. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des auteurs de bande dessinée comme Hergé ou comme l'auteur de La Marque Jaune, dont je ne retrouve plus le nom, mais ça va me revenir, qui sont décédés. Et puis, on va reprendre leurs aventures à la façon dont eux dessinaient pour continuer les aventures. Donc, les Blake et Mortimer sont continués par certains auteurs. Tintin, c'est interdit de continuer, donc on n'aura jamais des aventures de Tintin. Mais il y a des choses qui se passent comme ça, où on reprend le style de l'auteur original.
Tu sais pourquoi c'est interdit pour Tintin ?
Oh, parce que c'est une question d'argent et que la famille de Tintin ne veut pas qu'on reprenne ça. Et il y a plein de droits et plein de technicalités légales qui empêchent en fait l'image de Tintin d'être utilisée par quelqu'un d'autre que par cette famille ou par la fondation Tintin.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu tout un truc avec des dessins animés qui sont passés sur Tintin. Ils ont réussi à faire ça, mais c'était déjà très difficile. Mais reprendre deux histoires de Tintin, à part si c'est... Non, je pense que même si c'est dessiné différemment que Hergé, c'est pas possible, malheureusement.
D'accord.
Alors, donc là, c'est intéressant de voir comment ces dessinateurs-là ont pris la chose. Ça, ce que j'adore en bande dessinée, moi, c'est qu'on peut prendre une histoire ou un environnement, comme l'environnement de Mickey Mouse, et dépendamment de la créativité et de l'esprit du dessinateur, ou de l'auteur d'ailleurs, ça va changer la vision des choses. Donc par exemple, le dessinateur Cosset, qui est un dessinateur qui dessine généralement en noir et blanc et qui est assez adulte au niveau de son dessin, lui, il disait que lorsqu'il était enfant, il croyait complètement à l'univers de Mickey. Pour lui, c'était aussi vrai que lire des journaux. C'est souvent le cas quand tu es enfant et que tu lis de la bande dessinée, tu as l'impression que c'est quelque chose de très très vrai. Et il voulait vraiment y rentrer. Et puis apparemment, en 78, il est allé aux États-Unis pour se rendre au studio Disney à Burbank. Et puis, il a présenté son travail. Et il n'a pas été plus loin que ça apparemment, mais c'était, il voulait déjà travailler pour Mickey à l'époque. Et puis, quand Glenna lui a proposé, il y a 3 ans, de faire un album de Mickey, il n'avait pas oublié son envie, mais il était vraiment content parce qu'il avait laissé ça de côté en disant « je ne dessinerai jamais Mickey Mouse ». Et il a découvert après que ce n'était pas forcément un cadeau de dessiner Mickey, parce que plein d'idées étaient déjà prises et que lui ne trouvait aucune idée intéressante d'histoire. Et puis donc il a laissé un peu abandonner le projet. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que la créativité est revenue à un moment donné, parce qu'il a regardé les premiers dessins animés de Mickey Mouse. Et dès les débuts des dessins animés, on voit Mickey et sa compagne Minnie ensemble. Il a trouvé ça bizarre et il a dit « Pourquoi je dessinerais pas une histoire sur comment ils se sont rencontrés ?» Donc Cosset a décidé, lui, de dessiner cette histoire et de dire « Ben voilà comment Mickey Mouse et Minnie Mouse se sont rencontrés. » Donc c'est sa version à lui, c'est lui comment il a vu dans sa tête. Mais c'est super intéressant de voir comment il s'approprie l'univers de Mickey, et puis ben il raconte effectivement quelque chose qui s'est passé un peu avant toutes les histoires qu'on connaît. Un autre dessinateur qui s'appelle Karamidas, qui lui a un petit peu un style plus underground, qui l'applique finalement à ses aventures de Mickey, lui, il a aussi un petit peu eu du mal, parce qu'il y a plein de, comment dire, d'obligations quand tu dessines Mickey. Par exemple, tu peux pas dessiner d'animaux morts. Il n'y a aucun animal qui meurt chez Mickey Mouse.
D'accord.
Il y a plein de choses un petit peu très très précises et qu'il faut suivre quand même, même si tu as le droit à ta créativité. Mais il faut faire attention effectivement à ne pas déroger à comme un cahier des charges pour Mickey. Donc il dit que c'était assez intéressant, Karamidas, de pouvoir travailler avec ce cahier des charges, mais en gardant quand même son propre style. Et puis, il a trouvé en fait un vieux album où Mickey part à la recherche d'un temple inca. Et il y a 46 pages apparemment de cet album qui manque. On les retrouve pas, donc il a décidé de les inventer lui-même et puis de compléter cette histoire. Donc Karamidas, si vous retrouvez cette bande dessinée là, il faut d'abord connaître un petit peu l'histoire qui a été dessinée par le studio Disney, et puis vous allez voir la suite par ce cher Karamidas. Loisel, que j'aime beaucoup, moi, cet auteur-là, Loisel, pour te donner un exemple, il a repris l'histoire de Peter Pan, et il en a fait un album où il décrit l'origine de Peter Pan. C'est très, très graphique, entre guillemets. C'est vraiment réservé à un public adulte, parce que c'est un enfant orphelin qui est élevé par une femme qui le bat, qui boit. Et puis, il apprend à lire grâce à des aventures de pirates quand il va dans un pub. Donc, c'est dans un London des années où il y a Jacques l'Éventreur, où il y a des prostituées qui sont tuées. Et voilà. Et on retrouve Peter Pan dans... Pas Peter Pan, on retrouve Peter dans cette ambiance-là où il va avoir, par exemple, des amis orphelins. Il va leur rencontrer des histoires de maman, tout ça. Et puis, c'est magnifique. Et Loisel, c'est ce genre de dessinateur qui va reprendre tout ça. Et quand on lui dit de reprendre... Mickey Mouse, pour reprendre le fil de ma chronique, il a été emballé parce que quand il était petit et quand il a commencé à dessiner, il dessinait que des animaux. Il adorait ça, donc c'est pas du Mickey Mouse, mais c'était des animaux. Il inventait plein de personnages qui avaient un aspect animal, exactement comme les personnages de Mickey. T'as remarqué que Mickey, c'était une souris quand même, ma chère Kitri.
Oui, j'ai remarqué, oui.
Et donc, il a voulu reprendre en fait le Mickey des origines, celui qui a été créé en 1928, pratiquement les mêmes années que Tintin dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'était en fait à l'époque de la Grande Dépression. Et donc, il a pris la Grande Dépression en toile de fond de son histoire. Et donc, il met Mickey dans cette toile de fond. Et donc, il s'approprie tout ça, le chômage, l'expropriation, l'exploitation du petit peuple par les puissants et tutti quanti. Donc, on va retrouver un Mickey dans un décor vraiment différent, mais avec une histoire toujours du Mickey très naïve, entre guillemets, mais qui va quand même garder cet esprit-là. Donc, on va retrouver très bientôt tous ces albums-là qui vont sortir chez Glénat bientôt. Mais vous pouvez voir déjà quelques planches qui sont exposés à Paris, dans un musée dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous retrouver ça plus tard, et puis voir effectivement les planches de ces albums qui vont sortir très bientôt sur l'univers de Mickey Mouse. Voilà, ma chère Kitri, j'espère que ça t'a pas mal inspiré d'aller voir
super.
Un peu de bande dessinée. D'ailleurs, pour les gens de Toronto, s'ils veulent aller à la librairie La Mosaïque sur Bloor et Spadina, ou alors dans toutes les bibliothèques municipales de Toronto, il y a une grosse collection de bandes dessinées francophones et vous pouvez aller vous inspirer et puis manger de la bande dessinée tant que vous voulez.
Pour ceux aussi qui ne connaissent pas, découvrir la bande dessinée.
Tout à fait.
C'était la chronique BD, bande dessinée donc de Serge Paul. Serge, merci beaucoup. C'était vraiment très instructif, super. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc, merci beaucoup pour cette chronique.
Avec plaisir.
Merci, Serge.